Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Donc, on est de retour sur le podcast Commerce Élite en mode de discussion. Et cette semaine, on est avec William Lasserre, qui est directeur du marketing digital chez Attitude Living, une entreprise spécialisée dans les produits pour la peau. Et Attitude Living, c'est également une entreprise éco-responsable qui a planté plus de 1,5 million d'arbres depuis sa fondation et qui a sauvé à ce jour plus de 1000 tonnes de plastique grâce à ses emballages spéciaux. William, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ben merci Antoine, ça me fait très, très, très plaisir. Puis petite correction pour rentrer dans le bain. Beaucoup de gens nous appellent Attitude Living, mais le nom de la compagnie est vraiment Attitude. On utilise Attitude Living simplement pour nous distinguer sur nos plateformes, car le terme est quand même assez commun et utilisé par beaucoup d'autres compagnies.
Ah bon, c'est bon à savoir. Donc, on va s'assurer de bien modifier le tout. Et bon, William, tu es chez Attitude depuis 2 ans maintenant, 2021, si je ne me trompe pas. Peux-tu nous dire peut-être à la base, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va avoir une discussion ensemble très orientée sur l'omnicanal, parce que tu touches autant au volet e-commerce qu'au volet retail, au volet dans les points de vente. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un petit peu à la base quel a été ton mandat quand on est allé te chercher pour commencer chez Attitude?
Oui, premier mandat, tout simplement rentrer au niveau de l'équipe ou du département e-commerce. Mandat essentiellement médias numériques, publicitaires. L'objectif était de chapeauter une équipe de 2 spécialistes en paid social, donc publicité sur les médias sociaux essentiellement sur Meta et paid search, donc référencement payant à travers notamment les plateformes de Google Ads et Bing Ads. On avait aussi un petit volet Amazon Advertising, donc la publicité pour nos différentes boutiques Amazon canadiennes et américaines pour également développer ces boutiques-là, qui sont en très forte croissance, on l'imagine, ces dernières années sur les 2 territoires et essentiellement aux côtés États-Unis.
Et je suis curieux peut-être, avant qu'on rentre un petit peu plus loin dans les discussions sur l'omnicanal, revenir un peu sur les places de marché. Amazon, tu dis que c'est en très, très forte croissance. Est-ce que tu dirais qu'au moment où on se parle, il y a davantage de parts de marché qui peuvent être allées chercher avec les places de marché que ce que vous êtes capable d'aller faire directement avec le consommateur sur le site web? Est-ce que c'est peut-être un marché qui est en plus forte effervescence au moment où on se parle?
Oui, très bonne question. C'est sûr qu'avec la pandémie, notre e-commerce, comme en fait la grande majorité des compagnies dans le monde, là, je dirais, a explosé. Donc pendant les 2 années de la pandémie, la croissance est toujours là. C'est sûr et certain qu'on travaille fortement à optimiser l'expérience sur notre site web, parce que c'est vraiment une expérience exclusive qui est en quelque sorte une extension de la boutique physique que l'on a ici à Montréal sur Saint-Denis. Par contre, du côté de Amazon, on voit notamment parce qu'on s'adresse à une niche bien spécifique de produits pour destiner à une cible hypersensitive qu'on appelle, donc des gens avec des sensibilités au niveau de la peau, mais aussi des gens qui recherchent des produits avec des ingrédients sains. Et c'est certain qu'il y a, on se le cachera pas là, un bassin de clients assez vaste du côté de Amazon, que ce soit côté Canada et côté US. Et ben, c'est pas compliqué, les ventes doublent d'année en année ou presque de mois en mois. Et on gagne énormément de parts de marché, oui au Canada, mais je dirais essentiellement côté américain, où on est très largement supporté par un groupe qui s'appelle EWG Verified, qui prêche pour fournir aux clients des produits sains avec des ingrédients sains. Donc ils ont vraiment une charte très 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 précise au niveau de quels ingrédients on devrait avoir ou pas dans nos produits pour tout simplement protéger le consommateur et son environnement. Donc on surfe sur une très, très belle vague grâce à Amazon, notamment côté US.
Fantastique. Et bon, analysons peut-être un petit peu ensemble la distinction entre le marketing digital, le marketing pour la boutique en ligne, pour les places de marché également. Tu l'as mentionné, vous avez un emplacement physique à Montréal. Je crois qu'au moment où on se parle, ton mandat peut-être a un peu évolué. Tu es davantage dans une supervision globale, pas uniquement e-commerce, je crois bien, mais également un petit peu plus retail. Comment tout ça se met en place? Comment qu'on est capable de vraiment faire du marketing de manière distincte, autant pour les points de vente, autant pour la boutique physique, et au final être capable de supporter la croissance des boutiques en ligne?
Ouais, très vaste question. Je dirais, bon, C'est certain que le besoin d'un point de vue publicitaire est né initialement chez Attitude avec le lancement du site web. Donc avec un objectif d'acquérir du trafic, avec un objectif aussi de générer des ventes directes. Donc comme on appelle en bon français, en bas de l'entonnoir de conversion. Puis c'est sûr que avec les stratégies d'expansion de la marque côté américain, on a eu quelques besoins, je dirais, d'un point de vue développement de notoriété, non pas tout de suite de la marque, mais notoriété de nos produits. C'est sûr qu'on a EW, comme je l'ai mentionné, qui nous aide énormément, mais on a énormément de besoins d'éducation à faire auprès de la clientèle sur ce marché-là, parce qu'on a des produits très novateurs, que ce soit au niveau de l'emballage, mais même au niveau des ingrédients que l'on présente. Donc c'est sûr que les besoins ont légèrement changé d'un point de vue publicitaire. L'objectif n'était plus de générer du trafic vers le site web. L'objectif n'était plus de générer des ventes directes, mais d'aller travailler un peu plus au niveau considérationnel et même au niveau de la notoriété, faire connaître nos produits dans des marchés clés. Donc, suite à ça, c'est sûr qu'on a réévalué un peu la manière dont on évaluait nos dollars médias. On a bien entendu aussi légèrement augmenté les budgets et on s'est rattaché davantage, non pas simplement au département e-commerce, mais moi, en fait, j'ai transféré au département marketing pour supporter, nos différents détaillants, la boutique que on vient de lancer à l'automne dernier, mais également l'ensemble des besoins marketing qui sont de faire connaître la marque, faire connaître nos produits, bâtir une certaine crédibilité avec des produits très très novateurs qui sont peu connus et bien entendu générer des ventes en bout de ligne, mais pas seulement sur le site web. C'est sûr qu'on les regarde, on a encore bien entendu sur certains canaux un objectif de ROAS, un objectif de cost per acquisition, cost per first transaction, donc l'objectif d'acquérir des nouveaux clients sur notre e-com, mais on a des objectifs bien plus larges maintenant.
Et bon, c'est ce fameux terme qu'on entend depuis plusieurs années, surtout depuis qu'on dirait que la pandémie est ressortie de notre quotidien, le terme omnicanal que tu as expliqué dans les dernières minutes un petit peu. Donc, on veut chercher des clients avec notre site web, mais on veut faire connaître la marque de manière différente. Ouais. Dans le concret, quand tu fais des actions marketing au niveau de la notoriété, au niveau de considération, est-ce que tu es capable de nous amener peut-être dans un cas pratique pour dire comment qu'on évalue si l'effort, si l'initiative, si la campagne marketing a fonctionné? Parce que soyons honnêtes, tu disais que tu avais supporté l'équipe au niveau paid social dans le passé. Ben, j'imagine qu'on regarde les investissements, on regarde les retours sur investissement, on est capable de dire si oui ou non on accélère. Mais il doit y avoir beaucoup plus de nuances quand on veut faire connaître la marque dans un contexte plus de visibilité. Donc, comment qu'on est capable d'analyser si une campagne a bien ou moins bien fonctionné? Je suis certain que c'est une question que beaucoup de gens qui nous écoutent vont se poser.
Oui, bien sûr. Alors, il y a des méthodes complexes, il y a des méthodes plus simples. Personnellement, moi, je viens, mon expérience précédente avant Attitude était chez Lowe's Canada, retourner maintenant Rona, donc une grande entreprise multinationale avec énormément de moyens, donc de moyens pour investir en publicité, mais de moyens aussi pour évaluer les retombées des différentes initiatives marketing. Donc c'est sûr qu'avec dans ce genre de compagnie là, on est capable de rouler à 2 fois, 3 fois, même 4 fois par année, de ce qu'on appelle des études de marque qui permettent de voir un petit peu quelle est l'évolution de la perception de la marque, de la notoriété dans différents marchés au niveau de différents segments de consommateurs qu'on souhaite cibler. On a bien sûr aussi accès à différents modèles statistiques qu'on appelle MMM ou Media Mix Modeling qui nous permettent de savoir un petit peu d'un point de vue ROI global, un canal versus un autre, qu'est-ce que ça donne? Puis si on devait investir notre dollar supplémentaire, tout dépendant des objectifs et tout dépendant bien sûr de nos besoins, où est-ce qu'on devrait aller? Est-ce qu'on devrait aller en paid search, en paid social? Est-ce qu'on devrait faire plus de PR? Est-ce qu'on devrait faire plus de out of home? Excusez-moi pour les anglicismes, mais c'est comme ça qu'on parle de plus en plus du côté média. Mais oui, est-ce qu'on devrait faire plus de publicité sur les médias sociaux? Est-ce qu'on devrait faire plus de référencement payant ou d'affichage? Donc c'est sûr qu'on a accès à un vaste champ d'outils et bien entendu d'analystes au niveau des datas. Quand on se retrouve, et puis on le fait aussi, il faut pas se leurrer là du côté des compagnies, des multinationales, là, mais quand on se retrouve dans une PME québécoise avec des moyens peut-être un peu moins vastes, il faut revenir à la base. Puis la base, elle est quand même assez simple. On a des outils qui sont gratuits ou presque, qu'on est capable d'utiliser. Puis c'est un petit peu de la manière dont ils évaluaient les j'irais l'impact.
Peux-tu élaborer un peu sur ça? Je serais curieux de t'entendre. Ouais.
Ouais, je m'en viens là-dessus là. Tu sais, c'est quelque chose qu'ils faisaient chez l'eau tout simplement pour être capable d'évaluer l'impact des différentes promotions qu'on avait sur les circulaires. Bah, tu viens calculer ton lift. Tu regardes la période avant. Tu regardes généralement. Tout dépendant des périodes de campagne, etc. Mais un 4 semaines avant, 4 semaines pendant, 4 semaines après, tu viens niveler puis gommer l'effet de la saisonnalité. Puis tu viens évaluer, si tu veux, un lift sur tes ventes en fonction d'une sélection de produits, d'une ligne ou d'une gamme bien spécifique. Quel a été l'impact sur les ventes réelles de ta campagne publicitaire, donc en comparant le avant, pendant et après. Et puis tu peux reproduire cet exercice-là à plusieurs moments de l'année pour être capable de voir l'effet escompté. Donc ça, c'est tout simplement une analyse de lift, toute simple, qui est vraiment assez bête et méchante de voir, OK, j'ai travaillé, là, dans ce cas-ci, peut-être en génération de visite ou considération. Est-ce que l'effet escompté est là ou pas? Est-ce qu'il y a eu un impact direct sur mes ventes? D'un point de vue notoriété, c'est assez simple. On a la Search Console, on a une coupe d'informations aussi disponible dans Google Ads. On regarde tout simplement le lift sur nos clics de recherche de mots-clés de marque. On le voit très bien quand on a fait des campagnes de pure notoriété ou presque à l'automne dernier. On regarde un peu l'évolution de notre courbe. Donc on le regarde semaine par semaine des clics sur nos mots-clés de marque. Donc tous les gens qui recherchent et qui cliquent sur les mots attitude et les variations qu'on peut avoir et bien entendu nos noms de gamme. Puis on voit des lifts, on voit vraiment l'impact de nos campagnes de notoriété, on voit des pics. Donc c'est sûr que c'est difficile de rattacher un chiffre à ça. Alors oui, on est capable de regarder dans Google Analytics, on est capable d'aller chercher la valeur moyenne d'une session provenant des mots-clés de marque. Donc on est capable de prendre, si tu veux, cette valeur-là, que je dis n'importe quoi là, qui vaut peut-être 10$, qui nous est donné par Google Analytics, par GA, puis l'extrapoler en fonction du nombre de clics que l'on a sur une certaine période, puis se dire, ben, on a investi tant, puis potentiellement, ça nous a ramené tant de clics de marque qui ont chacun en moyenne une valeur de 10$. On multiplie ça, puis on est capable de calculer à quelque part un ROI, fait qu'on se base là-dessus. Est-ce que c'est de la rocket science? Non, mais on est capable d'avoir nos propres benchmarks et de s'évaluer dans le temps et dans les prochaines années.
Ouais, puis je pense que l'important, c'est d'avoir le maximum d'informations pour être confiant sur la prochaine action qu'on va être capable de prendre. Et j'adore ce que tu viens de dire. Il n'y a rien de plus simple que de simplement regarder le volume de recherche pour notre nom de marque, s'il augmente ou s'il augmente un petit peu moins selon des campagnes de notoriété pour être capable de voir l'impact. Et si on rentre peut-être dans le concret avec attitude, est-ce que tu es capable de nous ramener un petit peu à cette fameuse campagne de pure notoriété que vous avez fait l'année dernière? Parce que je trouve ça fascinant de voir quel impact cette campagne de notoriété peut faire avec le mix de campagnes de conversion, parce que vous êtes quand même assez actif au niveau des campagnes de conversion. Il y a plus de 140 publicités actives présentement pour votre organisation sur les plateformes de Meta. Donc, on voit que vous voulez générer de l'attraction. Même chose sur Google. Si on revient un petit peu à cette campagne de notoriété-là, est-ce que tu es capable de l'élaborer pour l'audience, nous dire comment tout ça a été mis en place et au final, qu'est-ce que tu ferais de différent dans le futur?
Ouais, bien sûr. Alors les campagnes de notoriété, donc la campagne dont je vous parle en ce moment, c'est sûr que donc on a vraiment deux marchés distincts là qui sont je dirais le Canada et le US, quoique le Canada on est encore très 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 Canada franco, donc le Québec. US c'est vraiment une autre game, puis c'est on aborde ça vraiment différemment, puis tout simplement l'échelle de grandeur de la population puis du marché puis de la concurrence là-bas est telle que on peut pas du tout mettre les mêmes initiatives en place. Côté Québec, l'idée est assez simple là, c'est de diversifier notre mix média le plus possible pour essayer d'aller maximiser la portée de la campagne tout en maximisant également la fréquence sur une cible bien spécifique. C'est sûr que nous là en ce moment on essaye de percer le plus possible du côté du marché de la beauté, dans le skincare et dans le maquillage, mais on n'est pas un L'Oréal de ce monde, donc on ne cible pas massivement l'ensemble de la population. On essaie de s'adresser à une niche intéressée initialement par tout ce qui est plus clean beauty, comme on l'appelle, donc tout ce qui est autour des ingrédients sains. L'idée de cette phase-là, c'est de, si tu veux, de leverager les différents formats qui ont été développés par notre studio et puis les agences avec qui on travaille. essentiellement le meilleur format pour faire de la notoriété aujourd'hui, tout dépendant de ce que tu as à vendre, mais en tout cas dans l'univers de la beauté, est vraiment le format vidéo, puis avec un mix de durées différentes, là, en passant du 6 à le 30, on le laisse de côté à 15 secondes. Puis la raison pour laquelle on intègre du 6, c'est tout simplement pour des raisons de coût, parce que généralement, un 6 versus un 15, on est capable d'aller diminuer le CPM avec certains partenaires par 2. Donc, on vient jouer avec le 6 pour notre fréquence, puis notre portée. Le 15 est bien entendu le format master, le maître, et puis le cœur de la campagne, mais on vient jouer avec d'autres formats. Puis l'idée ici, encore une fois, bah, c'est de travailler avec différents partenaires. On le sait avec... La mort des cookies tierces, on travaille le plus possible avec des partenaires qui ont des environnements clos. Je donne des exemples bien concrets ici au Québec, des Québécois, des La Presse, qui nous permettent d'avoir une belle portée, mais aussi d'aller parler à des gens dans un vase clos, comme on peut le faire sur Google, comme on peut le faire sur Meta. On vient essayer de chercher ces deux autres environnements-là à travers l'univers médiatique québécois. Puis l'idée... elle est simple, c'est de pouvoir maximiser la qualité des audiences que l'on cible, soit via des partages et des lookalikes, et puis bien entendu, ensuite d'être capable de reparler à ces personnes-là en dedans de 6 mois après la campagne. Parce que la campagne de notoriété n'est pas seule en elle-même, elle vient s'inscrire dans une stratégie plus long terme où on est en phase de recrutement, où on vient essayer de maximiser des vues, un engagement sur des formats bien spécifiques, mais on vient créer ces audiences-là, puis on a toujours une phase de sustain par la suite, où on continue la conversation, puis on a un enchaînement de messages, puis à ce moment-là, par la suite, on vient essayer de générer une vente avec un message plus promotionnel, avec vraiment nos stratégies un peu plus... tu viens de parler des 140 publicités actives sur les médias sociaux, c'est ces publicités-là généralement qui nous permettent ensuite d'aller générer une première vente. Donc il y a tout un parcours à créer. Qu'est-ce qu'on ferait différent par la suite? Je dirais que ce qu'on est en train d'ajuster en ce moment, c'est d'être beaucoup plus d'investir plus massivement dans cette phase d'entretien, si on veut, entre la phase de conversion et la phase de notoriété, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un énorme pic, mais parfois tout le pool d'audience que l'on était allé, donc le tout le bassin d'audience qu'on était allé créer, on n'était pas assez présent en continu avec cette audience-là pour continuer. Comme je te dis, on a des grands enjeux d'éducation. Donc, au niveau contenu éducationnel, on faisait pas assez d'efforts à ce moment-là pour être capable de les convaincre et de faire convertir le monde au bout du compte.
Fascinant. Et dis-moi, comment ça se traduit avec vos équipes à l'interne? Est-ce que vous avez construit tout cet environnement-là avec vos équipes à l'interne? De quelle manière peut-être structurer ton équipe?
Ouais, on fait beaucoup, beaucoup de choses, à la maison, entre guillemets, chez nous. C'est-à-dire qu'on travaille avec quelques partenaires externes. Moi, j'ai une culture personnelle très axée sur le partage et aller prendre le pouls des uns et des autres. Donc, on échange beaucoup avec des partenaires, mais on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses directement chez nous. Donc, la publicité est faite à l'interne. Une grande partie de la gestion web, l'optimisation du site web était faite à l'interne. Le studio de création est à l'interne. Une bonne partie du contenu est à l'interne. Donc, on a vraiment une équipe qui s'est serrée entre ce qu'on appelle le trade marketing, qui est plus le marketing en magasin, et tout ce qui est produit, qui est une équipe de 3-4 personnes. On a un studio où ils sont 6-7 qui s'occupent essentiellement de toute la création. On a notre équipe e-commerce où là, on est 7 personnes. Et il y a mon équipe où là, on est marketing intégré. Donc, on est vraiment... L'objectif, c'est d'assurer une cohérence au niveau du calendrier marketing et de couvrir l'ensemble des cibles et l'ensemble de nos segments de produits le plus possible en activant les différents canaux spécifiques. Donc, le canal courriel est plus côté e-commerce avec le CRM, etc. Mais dans mon équipe, on est vraiment structuré avec une personne qui s'occupe essentiellement des médias sociaux, une personne qui s'occupe de la publicité numérique, une personne qui s'occupe de la création de contenu et du marketing d'influence qui prend de plus en plus d'ampleur chez nous avec tout simplement l'univers de la beauté qui fonctionne énormément de la sorte. On le sait, tu le sais très bien chez J7, que le créatif a une incidence extrêmement importante en publicité sur les médias sociaux. On travaille beaucoup, beaucoup avec des créateurs de contenu pour tout simplement venir produire ces créatifs-là, ces vidéos-là, pour venir bâtir la crédibilité. On joue beaucoup et on fait beaucoup de gymnastique entre l'aspect plus commercial et plus authentique. C'est difficile, mais on sait qu'il faut davantage se tourner vers l'authenticité, que c'est ça qui a le plus d'impact également. Donc, on a vraiment une belle équipe entre le studio de création, l'équipe de brand et contenu, nous autres, le e-commerce et le marketing plus de produits magasins.
Dernière question, on va te laisser filer, William. À quoi ressemble votre plan de match, votre roadmap, on pourrait dire ça comme ça, pour les 12 prochains mois au niveau marketing?
Eh bien, on est arrivé à un moment où on va à quelque sorte segmenter et dissocier deux grandes familles chez Attitude. L'univers du beauté qui est vraiment notre priorité d'expansion, de pénétration de marché déjà depuis un an, mais pour les années à venir. Et tout le reste, toutes les autres catégories qui sont plus côté familial, pour la maison, le ménager. Donc, on est en train de potentiellement, tranquillement, scinder les équipes de la sorte. Pas l'ensemble des équipes. Là, il va rester à avoir des spécialisations en satellite, mais on veut l'avoir un peu plus de la sorte. Et on a un énorme défi qui s'adresse à nous, là, je te dirais, qui est le US, où je parle avec différents contacts qui vivent là-bas, et je me rends compte que l'univers médiatique et même le marketing se fait un petit peu différemment. Il y a tout un univers autour de la création de contenu, des newsletters, des podcasts. Et oui, on a beaucoup de podcasts qui se sont développés dans les dernières années ici au Québec, mais le US, tu sais, avec des plateformes comme Patreon, etc., c'est vraiment et vraiment comme déjà 5, 6, 7, 8 ans en avance. Et il y a dans notre niche à nous, on s'attaque vraiment à des tout ce qui est clean beauty, ingrédients sains, vraiment tout le côté éco-responsable, les familles, etc. Il y a beaucoup de très très belles opportunités qui sont de ce côté-là. Et d'un côté aussi, quelque chose qui est dans mon équipe que j'ai pas mentionné, mais qui sont les partenariats, que ça soit avec d'autres marques ou avec des publishers, des sites web spécialisés dans des niches bien spécifiques aux US. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut développer et ce qu'on veut pousser pour l'année prochaine. C'est se réinventer pour la portion marché américain.
Fantastique. Mais ça pourrait peut-être même être un autre podcast ultimement, la stratégie utilisée par Attitude pour percer sur le marché américain. Écoute, William, ça a été fantastique. Si on va en apprendre un petit peu plus sur vous, site web, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Moi, site web, je dirais que la meilleure vitrine, ça reste quand même notre compte Instagram pour l'instant, dans lequel qu'on anime énormément. Là, pour le coup, qui s'appelle Attitude_Living. je dirais que la plus belle vitrine, c'est Instagram, pour nous suivre et voir un petit peu qu'est-ce que l'on fait et suivre notre actualité. Puis après, bien entendu, pour magasiner le site web de Attitude, attitudeliving.com, est vraiment la plateforme de prédilection. Puis n'hésitez surtout pas à venir nous rendre visite. Peut-être que je serai pas là à ce moment-là, mais à la boutique. La boutique est magnifique.
Bien sûr.
Au coin, pour ceux qui sont dans la région de Québec, enfin pas dans la région, au Québec ou dans la grande région de Montréal, on est sur Saint-Denis, Rachel. Donc la boutique vient d'ouvrir, puis c'est toute une expérience là. Vous entrez dans une jungle urbaine, je vous dirais.
Fantastique. Ben écoute, je mettrai des liens et même les adresses dans les notes de l'épisode. William, merci beaucoup. Ça a été très intéressant de pouvoir parler avec toi et de bien comprendre cet aspect de notoriété-là qui devient essentiel. Quand on va chercher certaines parts de marché et qu'on a fait le tour des acheteurs propices à nous donner peut-être leur argent maintenant, on doit être capable d'étendre un petit peu notre vision au niveau de la pénétration de marché. Clairement, ça a été assez intéressant de vous entendre là-dessus sur le sujet. Merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce et Livre.